Que Dieu soit béni pour cette grâce encore de se retrouver ensemble dans la liberté, dans l'unité de l'amour, de foi, d'esprit. Et nous glorifions vraiment le Seigneur pour cette opportunité, aussi pour ces cantiques qui ont préparé nos cœurs, je le pense. Et c'est vrai que mieux connaître le Seigneur, je crois que c'est le désir des enfants du Seigneur, hein, toujours que... Et comment mieux le connaître, sinon par sa parole, où il s'est révélé vraiment pour chacun d'entre nous. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions trouver le titre de notre message ce soir dans un verset de la parole de Dieu, dans le livre des Actes au chapitre 10. Livre des Actes au chapitre 10, et nous lirons juste le verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, c'est lorsque... l'Évangile parvient aux païens et que Pierre se retrouve comme cela chez Corneille. On peut lire peut-être à partir du verset 37, acte 10, verset 37. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui... allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. » Pour connaître l'intention de Dieu envers l'humanité, il faut regarder à Jésus, car nous l'avons lu dans ce verset, Dieu était avec lui. Voir Jésus, recevoir ses paroles, voir ses actes, son comportement, c'est voir Dieu lui-même agir dans notre monde. Et qu'est-ce que Dieu fait au travers de Jésus? Qu'est-ce que Dieu lui-même en action accomplit? Eh bien, nous l'avons lu, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Je retiens juste cette expression, faire du bien. Et ça sera le titre de notre message ce soir, Dieu faiseur de bien, Dieu faiseur de bien, Dieu crée, Dieu fabrique, Dieu est un artisan du bien, il conçoit, il réfléchit et il met tout en œuvre pour le bien. De la même manière que les hommes sont ingénieux au mal, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 1er au verset 30, Dieu est ingénieux pour le bien. Il est vrai que cette pensée domine notre partage ce soir. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Alors quelque chose qui peut nous interpeller un petit peu à la lecture de ce premier chapitre. Lorsque Dieu crée tout ce qu'il a créé, toute l'œuvre de la création, il y a comme des étapes jour après jour. Et il est dit à chaque fois... Par exemple, au verset 3, Genèse chapitre 1er, vous avez trouvé Genèse chapitre 1er? Pas trop difficile, ça va? Ça va. Verset 3, il est dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu avait créé la lumière et il fait comme un constat, il voit que ce qu'il avait créé était bon. Il est dit au verset 10, Dieu appela le sectaire et il appela l'amas des homères. Dieu vit que cela était bon. On peut aller un petit peu plus loin aussi, au verset 12, Dieu vit que c'était bon, il avait créé toute l'herbe, portant la semence, etc. On peut lire au verset 18, Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir et un matin, il y a une sorte de répétition à chaque fois. On le voit aussi au verset 21, alors que Dieu avait créé tous ces animaux vivants, Dieu vit, fin du verset 21, que c'était bon. Et on saute, on va directement au verset 25, Dieu vit aussi que c'était bon, il avait donc créé sous toutes ces espèces. Et on va directement au verset 31, à la fin, on va dire, de toute la création, avant le septième jour de repos, il est écrit ceci, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Tout ce que Dieu fait est parfait, l'œuvre de ses mains, il œuvre uniquement pour le bien. Le problème, c'est que si l'intention de Dieu, c'est de faire du bien, et uniquement cela, quelle est la place du mal dans le projet de Dieu? Et c'est cela que je voudrais que l'on puisse s'arrêter ce soir. Il y a souvent des interrogations qui peuvent être, entre guillemets, un peu légitimes dans nos cœurs. Si Dieu est un artisan du bien, si tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, le pousse uniquement vers le bien, pourquoi? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant d'injustices? Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, c'est, sans peut-être le verbaliser ainsi, il peut y avoir ces questionnements dans nos cœurs. En tout cas, vous savez que c'est souvent en tout cas ce que peuvent dire les non-croyants. Si Dieu est bon, pourquoi tant de souffrances? On pourrait dire même, c'est Jérémie, le prophète Jérémie, qui interpelle le Seigneur de cette manière-là. Il dira ceci, si Dieu est bon, pourquoi les méchants prospèrent? Dans Jérémie chapitre 12, verset 1er. Alors, disons-le très clairement, non seulement Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il lutte constamment pour faire du bien. Il lutte contre le mal tout en faisant du bien. Et non seulement il le fait, mais il veut tant que ses enfants, que chacun d'entre nous, qui sommes engagés avec lui, nous fassions de même. Alors, si nous ne sommes pas conscients de la place du mal dans l'œuvre de Dieu, nous risquons certaines choses, par exemple d'être un peu fataliste lorsque l'on voit le mal se répandre non seulement dans notre monde, mais parfois malheureusement même au sein de nos églises, lorsqu'on voit que d'une certaine manière Dieu, et je mets vraiment entre guillemets, laisse faire. Si nous ne comprenons pas la place précise du mal dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons peut-être parfois avoir un comportement fataliste, peut-être même parfois baisser les bras face au mal. Alors que la Bible est claire, elle dit ceci, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché » dans Jacques 4, verset 17. Un homme a dit ceci, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Si nous ne sommes pas conscients de la place du mal dans l'œuvre de Dieu qui veut vraiment du bien, nous aurons peut-être même parfois du mal à orienter nos prières. Comment prier? Alors que Jésus, dans le modèle de prière qu'il nous a laissé, nous a montré qu'il fallait prier ainsi, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, dans Matthieu chapitre 6, verset 13. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais quel que soit le mal, Dieu mettra tout en œuvre pour en tirer du bien. Et ça, c'est vraiment la pensée qui domine notre partage ce soir. Quel que soit le mal, quelles que soient les circonstances, vous savez, nous, on a parfois le réflexe de lutter directement contre le mal, contre tout ce qui s'oppose à la loi de Dieu. Je crois que nous devons être conscients que même avec des matériaux très mauvais, Dieu peut en tirer du bien. Vous avez l'exemple de Saul de Tarse, qui persécutait même les chrétiens. Et regardez ce que le Seigneur en a fait, un apôtre Paul, avec tous les encouragements, même qu'il nous donne encore aujourd'hui. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais quel que soit le mal, Dieu mettra tout en œuvre pour en tirer du bien. Prenons l'exemple de la croix. Qui a été l'auteur de ce crime infâme? Alors souvent, parfois, même on le présente dans nos chants, on dit ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Il y a une grande part de vérité là-dessus, mais qui a été l'auteur de ce crime infâme? On va lire un verset ensemble dans Actes chapitre 2, verset 23. Actes chapitre 2, verset 23. Alors c'est le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre apporte cette parole, Cette parole bénie, on peut lire peut-être à partir du verset 22. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Verset 23. « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Amen. Je vous relis ce verset dans la version Semeur. « Cet homme a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. » Puisqu'on est dans le livre des Actes, regardez juste au chapitre 7, les paroles d'Étienne, juste avant de mourir en martyr, au verset 52, acte 7, verset 52. Regardez aussi comment Étienne s'adresse à ces hommes. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Amen. Ce sont bien les hommes, ce sont bien les chefs religieux et les Romains qui ont exécuté Jésus. Ça a été clairement dit et clairement dénoncé, en tout cas par les apôtres. Mais en faisant ce mal horrible, inqualifiable, ils ont accompli le projet de Dieu. Ça paraît difficile pour nous de l'emmagasiner dans notre raisonnement humain, mais c'est ainsi que nous devons le comprendre pour être le plus conforme à la parole de Dieu. C'est un projet que Dieu avait établi d'avance. Pas facile de mettre les responsabilités où elles sont. Qu'importe, le mal qui a été commis par ces hommes. Le projet de Dieu n'était pas de faire du mal à son propre fils. Pas besoin de discuter longtemps là-dessus. C'était pas ça le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu, c'était que, en fait, par le mal que son fils allait subir, Dieu a pensé au bien de l'humanité. Et c'est ce que déclare l'apôtre Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans Romains chapitre 5, verset 20. Dieu, faiseur de bien, Dieu crée, Dieu conçoit, Dieu met tout en œuvre uniquement dans le sens du bien. Et nous avons parfois du mal à trouver une place au mal dans le projet de Dieu. Ça, c'était l'introduction. Et je voudrais revenir dans un premier point. Je trouve que c'est important que nous le fassions sur l'origine du mal. L'origine du mal. Quand Dieu a tout créé, nous l'avons lu, il est écrit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Pourtant, au milieu de cette œuvre parfaite, nous voyons qu'il existe le mal, dont il est fait mention la toute première fois dans l'Écriture, par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'au travers de tout ce que Dieu a créé, parfait, puisque Dieu rend lui-même le témoignage que c'était très bon, il y a un arbre, en tout cas il y a une mention du mal. Et une des grandes questions que nous sommes en droit de nous poser là, naturellement, devant le fait que Dieu a tout créé d'une manière parfaite, c'est l'Écriture qui le dit, hein, Dieu a-t-il créé le mal ? Non. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal ne vient pas de Dieu, mais il vient de celui que la Bible appelle le malin, Satan, le diable, le tentateur, qui se présentera d'ailleurs dans le jardin d'Éden sous la forme du serpent. Oui, mais dira-t-on, Le diable, qui c'est qui l'a créé? Eh oui, quand on commence un petit peu à réfléchir, essayer de... Qui a créé le diable? C'est qui l'a créé? C'est Dieu. Eh oui, le diable a été créé par Dieu, nous révèle la parole. Il faisait partie des anges. Alors, on va lire quelques versets dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28. Livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28. Alors, il y a deux textes dans la parole de Dieu qui nous parlent du diable, de tout ce qui s'est passé un petit peu au niveau de sa chute et de ce qui s'est passé, sans nommer véritablement le diable, Satan, tous les noms qui sont... il est question ici d'un roi particulier. Alors, il y a deux textes. Je vous cite l'autre texte, c'est dans Ésaïe chapitre 14. Je vous le cite pour que vous puissiez le noter si vous voulez. Dans Ésaïe chapitre 14, au verset 4 et au verset 21. Et nous allons lire, nous, quelques versets. C'est l'autre passage où il est question de ces versets, dans Ézéchiel chapitre 28. Alors, il est question de deux rois, un roi de Babylone, un roi de Tyr. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il est question, en définitive, de Satan et du diable. Je pourrais développer pour quelles raisons, mais il y a une certaine unanimité là-dessus. Et je voudrais lire juste quelques versets, Ézéchiel chapitre 28. Bon, on pourrait revenir un petit peu. Regarde, je vais sauter quelques versets pour ne pas faire trop long, mais à partir du verset 13. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé... Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Et on va vraiment s'arrêter, nous, ce soir, sur le verset 15, où il est écrit ceci. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Amen. Il y a deux dates bien distinctes. Date où il a été créé avec toute la perfection. Il y a d'autres versets qui montrent quelle autorité même il avait reçue de Dieu, quelle place il avait excellente, le témoignage même qu'il donne de ce qu'a été sa vie, jusqu'à, et ça c'est l'autre date, jusqu'au jour où, comme nous l'avons lu, l'iniquité, le mal en définitive, a été trouvé chez toi. Et ce que je vous propose, c'est de limiter notre compréhension de l'origine du mal sur ce verset. Il y a une certaine limitation, il faut qu'on l'accepte, on ne comprendra pas tout. Parce que vous savez, quand on essaye trop de le décortiquer, à un moment donné, j'ai vu déjà quand je posais un petit peu la question, Dieu a créé le mal, etc. Si on veut le ramener à notre raisonnement humain, je peux vous dire que ça donne des dégâts impressionnant, des dérives de droite et de gauche. Mais pourtant, même si cela peut nous faire peur, il est important quand même de mettre les mots où il faut. Et moi, mon invitation de la lecture de l'Écriture, c'est que nous puissions limiter à cet endroit-là notre compréhension de l'origine du mal. Non, Dieu n'a pas créé le mal. Mais un jour, pour la raison que nous n'expliquera certainement pas ici-bas, un jour précis, le mal s'est trouvé dans le cœur de cet ange, et il a été déchu avec aussi d'autres anges qu'il a entraînés, et c'est ainsi que le mal s'est répandu dans le monde, et nous le voyons particulièrement donc au départ pour la race humaine, dans ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voilà ce que je voulais dire, juste, j'espère pas trop vous décevoir, mais en tout cas de la compréhension qu'on peut avoir de l'origine du mal, pour essayer que nous puissions comprendre, et vous le verrez à la fin pourquoi, il est important de concevoir que Dieu n'est pas l'auteur du mal, même s'il peut utiliser pour différentes raisons le mal qui existe. Alors la deuxième chose que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est un point qui me semble aussi important, c'est qu'il n'y a que Dieu seul, qui peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. On va voir un verset dans Genèse chapitre 24. C'est une histoire extraordinaire. Genèse chapitre 24. Abraham a envoyé son serviteur pour choisir une épouse pour son fils Isaac. Alors c'est un texte qui est extraordinaire, qui montre un peu l'idéal du choix du conjoint, en tout cas tout ce que Dieu peut permettre pour conduire des voies. Et j'ai pris ce texte parce que ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de voir comment Dieu a conduit son serviteur auprès de cette jeune fille et comment, d'une manière qu'on ne peut pas contester, la volonté de Dieu a été clairement établie dans cette histoire. Alors, on ne va pas relire, mais je vous invite à le faire chez vous, dans Genèse au chapitre 24, et voir comment ce serviteur est allé chercher, et comment il a fait cette prière, il a demandé à Dieu. Peut-être on pourra voir juste quelques versets, regardez. Juste chapitre 24, il est dit, voilà, il dit, verset 12, « Éternel Dieu de mon Seigneur, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je la boive, et qui répondra, bois, je la donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca. Alors je vous laisse chez vous lire, mais regardez par exemple le verset 21 qui m'a interpellé. Non seulement cette fille, elle va lui donner à boire, elle va aussi donner à boire donc au chameau. Et il est dit au verset 22, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Ou non. En plus, ensuite, cette fille va se présenter comme effectivement étant de la famille d'Abraham, et donc ça correspondait exactement à ce que voulait Abraham. Alors pourquoi je vous ai pris ce texte? Parce que il y a vraiment des paroles que je trouve très fortes de Laban, qui est le frère de Rebecca, et de Bethuel, qui est le père de Rebecca, c'est au verset 50. Verset 50 du même chapitre, « Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. » Amen. C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. » Ces hommes ont été, entre guillemets, obligés de constater comment Dieu avait conduit son serviteur avec précision. La volonté de Dieu était claire pour tout le monde. Et malgré, on peut imaginer, un déchirement pour cette famille, peut-être un désir de réfléchir, c'était quand même une sorte d'inconnu, même s'il y avait un lien familial par là, d'accepter de laisser partir Rebecca. Il n'y a pas de réflexion si c'est bien, si c'est mal, etc. Puisque la volonté de Dieu est clairement établie, nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Ça n'a pas été malheureusement l'attitude de Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Si on pouvait prendre un copier-coller de ce verset, le transposer dans le jardin d'Éden, et que ça aurait pu être la détermination de Ève et de Adam, tout aurait été bien différent. L'Éternel avait donné un ordre précis. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 2 et verset 16. Et en refusant de se soumettre pleinement à la volonté de Dieu qui était clairement établie par sa parole, Adam et Ève se sont autorisés de définir eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Bien sûr, sous l'influence du tentateur, Dieu a-t-il réellement dit? Et tout le questionnement, et on reparamètre tout, et finalement, c'est ainsi que Le désordre est entré dans le monde, dans l'humanité, et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, ce désordre s'amplifie chaque fois que l'homme, à la place de Dieu, définit par lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Et nous devons être extrêmement vigilants parce que nous vivons dans un monde qui croque à pleines dents le fruit défendu et s'autorise de définir à la place de Dieu ce qui est bien ou ce qui est mal. Et je trouve que les paroles de ces hommes sont des paroles d'obéissance, des paroles de crainte de Dieu. Seul Dieu peut définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Aujourd'hui, nous voyons dans le domaine du mariage, de l'avortement, du divorce, l'euthanasie, je dirais qu'une place de choix est faite, malheureusement, au mal. La Bible est claire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Voilà ce que je voulais partager aussi dans ce deuxième point. Seul Dieu peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. En troisième point, je voudrais vous parler de la liberté de l'homme. Dieu, faiseur de bien, est obligé de composer avec ce qu'il nous a donné, la liberté de choisir. Si nous n'avons pas le choix de définir ce qui est bien ou ce qui est mal, nous avons le choix de pratiquer le bien ou le mal. Et Dieu qui n'a de cesse, je dirais, de nous prodiguer du bien, eh bien se trouve bien souvent face à notre entêtement. J'ai noté ce verset où Jésus se lamente face à Jérusalem. Jésus dit ceci, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Combien de fois, quand je vous dis que Dieu crée du bien, même de matière mauvaise, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, dans Matthieu chapitre 23, verset 37. Quelle image ! D'un côté, Dieu qui nous veut du bien, acteur de bien pour nous, et nous, nous ne le voulons pas. Et là, il y a aussi un grand mystère pour comprendre la place du mal dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, ce que les hommes, tirés de la poussière, créés à partir de la poussière, hein, c'est cela, qui ont été créés à l'image de Dieu, sont libres de choisir soit d'aller vers le Créateur, soit de le suivre, d'essayer de se conformer à lui, d'essayer de lui plaire, ou ils sont libres aussi de le rejeter. Ils ont été créés libres, nous avons été créés libres, soit d'aller vers lui, soit de le rejeter, soit de le mépriser, soit même de le crucifier. Voilà la liberté que Dieu a donnée aux hommes. Il ne peut pas y avoir de notion, de dimension de bonheur, sans cette notion de liberté. Dieu veut que nous allions vers lui en être totalement libres. Il ne nous a pas créés comme des robots. Et Dieu s'attend à vivre avec nous une relation d'amour pleinement consentie. C'est un petit peu cette image de l'époux et de l'épouse qui est souvent d'ailleurs reprise dans la parole de Dieu pour parler de la relation de foi qu'il y a entre Dieu et les hommes. Eh bien, comme l'époux et l'épouse s'engagent librement, enfin, normalement c'est comme ça, l'un envers l'autre, Dieu veut ainsi une relation d'amour pleinement consentie. Il n'y a pas de mariage forcé dans le royaume de Dieu. Alors certains pourraient dire, puisque je l'ai cité en plus tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme libre, certes, et pas tout à fait, puisqu'il y avait... il y avait au moins une interdiction de ne pas manger de l'arbre. Et là, il faut quand même le mentionner, il y a une très mauvaise notion de liberté. Aujourd'hui, au nom de la liberté, on peut tout faire. Enfin, vous savez, le fameux interdit d'interdire. Aujourd'hui, on a même vu qu'on était libre de pouvoir insulter qui qu'on veut, comme on veut. Il y a vraiment une très mauvaise notion de liberté. Combien se retrouvent emprisonnés pour avoir voulu être pleinement libres ? Combien aujourd'hui sont en prison pour avoir voulu vivre totalement leur liberté ? Ils étaient totalement libres. En prison, dans l'alcool, dans les addictions diverses, dans la drogue, dans l'alcool, ils ont voulu vivre leur liberté à leur façon. Quel parent sage, s'il en existe encore, ne fixera pas des limites à son enfant pour qu'il vive longtemps et heureux ? Et la vraie notion de liberté, eh bien, elle n'existe qu'avec, comme des garde-fous, des repères en tout cas, des lois en tout cas que Dieu nous adresse. J'aime cette image de la rivière, vous savez, quand on est à la montagne, on voit les petits cours d'eau, puis après ça devient des grandes rivières qui vont se jeter dans les mers et dans les océans. À un certain moment donné, la rivière, si elle n'est pas canalisée par des berges, elle va se répandre de droite et de gauche, ça va être un petit peu comme, vous savez, des sols un petit peu marécageux, ça se passe à des fois à la montagne. Mais il suffit que le lit du canal soit contenu, vous savez, des berges de chaque côté, pour que la rivière puisse commencer à couler et aller loin et aller loin. Et je crois que la notion de liberté, elle est là-dedans. Lorsque nous comprenons, et avec nos enfants, nous le vivons eh bien, tout à fait normalement, il y a des choses que l'on contient pour leur bien-être, pour leur vie, afin qu'ils soient heureux et qu'ils puissent continuer leur chemin. La liberté de l'homme. Dieu, tout en nous incitant à pratiquer le bien, eh bien, nous laisse libre de choisir entre le bien et le mal. Et c'est vrai que le constat malheureux que nous sommes obligés de faire, c'est que nous choisissons plus facilement ce qui est mal. Aucun homme n'est parvenu à se dégager de l'emprise du mal depuis qu'il est entré dans le jardin d'Éden. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ceux qui ont la foi en Jésus, parce que quand je dis aucun homme, sauf Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui n'a pas été sous l'emprise du mal tout au long de son ministère. Ceux qui ont la foi en Jésus peuvent être réellement libres quant au mal. C'est pour ça que Jésus a dit ceci, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre dans Jean chapitre 8, verset 36. Dieu a créé l'homme libre. Alors je voudrais arriver sur mon quatrième point. J'ai parlé en premier temps de l'origine du mal. J'ai parlé en deuxième temps de seul Dieu peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons parlé de la liberté de l'homme. Et maintenant je voudrais venir sur cette quatrième et dernière pensée. Dieu est souverain. Je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais, alors ça peut être pas paraître évident pour ceux qui connaissent l'amour de Dieu et la bonté de Dieu, tel qu'on a pu aussi le rappeler encore ce soir. Mais si nous ne comprenons pas la place du mal dans l'œuvre de Dieu, certaines situations peuvent nous déstabiliser, et il y a même quelques versets de l'Écriture qui pourraient un petit peu nous tromper. Alors je voudrais juste les citer, je vais juste vous les citer parce que sinon ça va faire trop long. C'est par exemple Job. Vous savez, quand Job est arrivé cette terrible épreuve, le rapport qu'il y a eu avec sa femme, Job a été obligé de lui dire à un moment donné, mais tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job chapitre 2. Verset 10. Je vous cite un autre verset, je vais vous en citer 3 ou 4, pour qu'on voit que on peut quelque part, même si on comprend que Dieu n'est pas l'auteur du mal, on n'arrive pas à comprendre finalement la responsabilité de Dieu, voilà, dans ces événements-là. Le prophète Ésaïe dit ceci, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Dans Ésaïe 45, verset 7. Je vous cite un autre verset. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Dans Lamentation de Jérémie 3, versets 37 et 38, un quatrième verset. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Amos, chapitre 3, verset 6. Alors, j'ai cité ces versets à cet endroit de la prédication parce que nous avons parlé de qui est véritablement l'auteur du mal. Nous avons parlé du diable, du tentateur, et nous avons besoin de comprendre quelle est véritablement la source du mal et de bien établir dans notre cœur, selon la parole de Dieu, que Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Dieu est un faiseur de bien. Il crée, il fabrique tout ce qu'il met en œuvre, c'est uniquement vers le bien. En fait, Dieu reste le maître. C'est pour ça que je veux parler maintenant de la souveraineté de Dieu. Dieu reste le maître. Rien n'échappe à son contrôle. Et disons-le clairement, le mal ne peut se répandre sans sa volonté. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la liberté de l'homme. C'est là aussi, quelque part, eh bien cette limitation que Dieu s'est donnée dans sa toute-puissance, eh bien, qui laisse finalement le mal se répandre. On le voit très bien dans l'histoire de Job au chapitre 1er, on ne va pas le relire, mais si vous ne connaissez pas trop ce contexte, relisez le chapitre 1er de Job, on voit bien que le mal, il vient de qui ? De Satan. De Satan. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va contenir, il va permettre, il va donner une certaine sphère d'autorité au diable sur la vie de Job. Vous reverrez, peut-être. Et alors, lorsque Job dit ceci, nous recevons le bien de Dieu, nous ne recevrions pas aussi le mal, qu'est-ce que ça veut dire bien en définitive ? C'est que cet homme intègre, cet homme qui connaît Dieu, cet homme qui a véritablement un cœur droit, en tout cas c'est le témoignage que Dieu donne de lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il s'incline devant la souveraineté de Dieu. Dieu peut donner une sphère de liberté au mal, mais c'est toujours Dieu qui a le contrôle de la situation. Nous avons dit tout à l'heure, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. On pourrait faire mention de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph ? Là aussi, quand on parle d'adversité, de mal, de souffrance, d'incompréhension, d'injustice, je ne sais pas tous les mots qu'on peut mettre dans l'histoire de Joseph. Je fais une toute petite parenthèse, j'aime pas trop parler de moi, mais c'est vrai que ce message ce soir fait suite à un message que je vous avais apporté au mois de décembre sur l'école de la souffrance. J'ai connu un temps particulier de souffrance particulière, et c'est vrai que c'est quand on se retrouve là, dans le feu de l'épreuve, que il y a certains textes, certaines paroles, même que l'on connaissait de l'Écriture, et qui nous interpellent d'une manière particulière. Et je dois le dire, et que tout ce que nous partageons ce soir est le fruit de beaucoup de méditation dans les pleurs, dans les larmes, d'incompréhension, loin d'être comparé à ce qu'a pu connaître Job, mais de ces souffrances que Dieu permet parfois pour que nous puissions mieux comprendre qui il est, comme on l'a chanté, tout à l'heure, mieux te connaître, Seigneur. Joseph, qui a fait le mal dans l'histoire de Joseph ? Est-ce que c'est le père de Joseph, Jacob, qui en avait fait un petit chouchou, un habit, tout ça ? Quelle est la responsabilité ? Est-ce que c'est Joseph lui-même qui a été maladroit ? Peut-être des pointes d'orgueil en parlant de ses songes. Qui a fait le mal ? Les frères de Joseph. On va lire juste quelques versets ensemble dans Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Et tout comme on l'a lu tout à l'heure sur lorsque l'apôtre Pierre ou Étienne lui-même a pu dénoncer qui avaient été réellement les criminels de Jésus, en nommant directement les personnes, là aussi nous pouvons voir que, en définitive, ce sont les frères de Joseph qui ont commis le mal. Mais Dieu, il est souverain. Et on peut lire par exemple au verset 4, Joseph 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, alors c'est plus tard, hein, c'est sûr que pour ceux qui ne connaissent pas le contexte de l'histoire, je vous invite à relire tous les chapitres précédents. Mais pour ceux qui connaissent, voyez le temps où Joseph se révèle à ses frères. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Qui c'est qui l'a vendu? C'est ses frères. On est d'accord. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est vous qui m'avez conduit ici, mais c'est Dieu aussi qui m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, pendant 5 années, encore il n'y aura ni labour ni moisson. Verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. C'est pas facile de comprendre la place du mal dans le projet de Dieu. Mais je crois qu'il est important, je l'ai dit tout à l'heure, parce que certains de nos actes, ou peut-être même certaines de nos prières, de nos façons de nous comporter, si on ne comprend pas bien la place du mal dans le projet et le dessein de Dieu, nous pouvons avoir des attitudes qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend. Les frères de Joseph, ce sont bien eux qui ont fait le mal. Joseph, en tout cas, les a présentés ainsi. Eux ont pensé au mal. Ont été, alors après, on pourrait décortiquer tout ce qui leur a amené dans leur cœur, mais peu importe, ils ont fait le mal, et ils étaient responsables de leur acte. Il faut voir quand même les circonstances, enfin, je veux dire, ils ont pensé au mal. Mais Dieu, faiseur de bien, a pensé le bien pour le salut d'un grand nombre, de nations quand même, et y compris les frères de Joseph. N'est-il pas merveilleux, notre Seigneur? Même pour le bien des frères de Joseph. Je voudrais conclure. C'est Barnabas et Paul qui se sont retrouvés dans une certaine circonstance et ont été obligés de dire ceci. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Entre parenthèses, je parlais de cette liberté. Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dans Actes chapitre 14, verset 16 au verset 17. Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie, mais dans ce temps-là, il n'a eu de cesse de faire du bien. Et c'est là que parfois, pour nous, c'est compliqué aussi. Je parlais de cette parole de Jérémie lorsqu'il dit, eh bien quoi, même les méchants prospèrent. Et c'est vrai que des fois, il y a des questionnements dans notre cœur. Jean est formel, le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est grâce, je dirais, à la souveraineté de Dieu que ce mal est contenu dans le monde. Et même si Dieu nous a laissés totalement libres de nos choix, il ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien. Dieu est l'auteur du bien, il crée, il façonne du bien. Je finis par cette pensée et il attend, je crois, de chacun de nous, de ses enfants, que nous puissions prendre position dans le domaine du mal. Et je reviens un petit peu très rapidement sur ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne, même dans le monde, ça paraît évident parce qu'il y a de tels désordres que le mal peut apparaître évident. Mais je vous assure que sur certaines décisions, sur certaines prises de position, même dans nos églises aujourd'hui, nous devons être extrêmement vigilants. Et nous devrons, c'est pas de lutter contre le mal, de lutter pour les personnes qui font, contre les personnes qui font du mal, mais c'est de prendre clairement position, non pas sur ce qu'on pense de bien ou de pas bien, vous savez, tous ces sujets sur l'homosexualité. On n'a pas à débattre, nous, sur ces sujets-là. On a juste à dire ce que Dieu a dit. C'est Dieu seul qui peut définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Et il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui laissés sur le côté, où la parole de Dieu est trop claire pour que nous soyons passifs, laxistes ou baisser les bras. Nous devons prendre position par rapport au mal, et nous devons surtout, peut-être pas perdre du temps à lutter contre le mal, c'est pas notre rôle, mais à pratiquer le bien, à l'exemple de Dieu, en toute situation. Faire le bien, c'est ce qui peut-être tranchera le plus au mal qui se répand dans notre monde. Et surtout, je termine par cette pensée, en étant toujours conscient que la matière même la plus mauvaise, Dieu peut en tirer du bien. Quel que soit l'homme, la femme, ses prises de décision les plus horribles, Dieu peut avoir un projet, un dessein pour lui ou pour elle. C'est pour ça qu'il est important pour nous aussi que nous marchions, comme nous l'avons chanté, que nous marchions à sa suite. Qu'est-ce que faisait Dieu dans ce monde? Il parcourt les villes en faisant du bien. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Prions un instant. Éternel, notre Dieu, nous voulons de tout notre cœur te bénir pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissée, de nous l'avoir donnée et de nous laisser encore cette liberté encore ce soir de la partager. Nous pouvons rentrer chez nous et l'ouvrir encore, la lire librement. Merci pour cette liberté quand nous pensons à nos frères et sœurs qui, par-delà le monde, eh bien, sont parfois persécutés juste pour pouvoir la lire. Seigneur, merci pour ce bienfait. Rien que le bienfait de ta parole nous montre à quel point tu es bon envers chacun de nous. Et nous devons réaliser que parfois nous avons du mal à comprendre la place du mal dans les projets que tu as dessinés pour nos propres vies, mais parfois aussi pour tout ce qui nous entoure, peut-être dans nos communautés également. Aide-nous, Seigneur, à nous conformer pleinement à ta parole. Seigneur, ce que tu as déclaré mal, nous le considérons comme mal. Et ce que tu as déclaré bien, nous le considérons comme bien. C'est notre décision, Seigneur. C'est notre désir de nous conformer à toi. Et aide-nous, Seigneur, jour après jour, à rendre témoignage autour de nous en faisant le bien que tu pratiquerais toi-même si tu étais physiquement présent. Tu nous as donné tout ce qu'il fallait pour cela, Seigneur. Tu attends de chacun d'entre nous que nous nous décidions pour toi. Que ton amour, que ton Saint-Esprit inonde nos cœurs et nos vies. Que ta présence soit tellement manifeste dans nos vies, dans notre assemblée, Seigneur, que plusieurs puissent témoigner que tu es vivant, que tu règnes et que encore aujourd'hui, tu délivres du mal. Seigneur, garde-nous les uns et les autres et que ton nom soit béni. Amen.